dire, ce n'est pas la jungle. Il y a un cadre légal qui est un référentiel qui a été. C'est une sorte de pétition de principe qui a été diffusée et publiée fin août, début septembre, au début de l'année scolaire par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais bon, voilà, ce n'est qu'un cadre référentiel, ce n'est pas très abouti, et quand on regarde un petit peu, qu'on prend une vision un petit peu mondiale, on se rend compte que la Belgique n'est pas très loin.
Mmh. C'est-à-dire ? Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus en avance, des pays qui ont plus réfléchi ?
Mais j'ai une, un petit peu, parce que je sais que Cédric, que vous adorez le véhicule, les anecdotes, etc.
C'est vrai.
Je reviens d'une mission au Vietnam où j'ai aidé des doyens et des recteurs, rectrices, des responsables d'université ou de hautes écoles à réfléchir à comment intégrer l'intelligence artificielle. Et je suis parti avec un petit peu mon cadre à moi, mon référentiel à moi, en me disant, bon, ben, on sait que dans l'éducation, l'IA, elle n'est pas très, encore pas très intégrée. Et là, je suis tombé de ma chaise. Pas en arrivant au Vietnam, je m'étais quand même un petit peu renseigné avant, mais en découvrant ce qu'ils ont fait. C'est un des pays au monde, à mon avis, les plus avancés en matière de leur ambition et des aspects pratiques de l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'enseignement.
C'est-à-dire ?
Ils ont lancé, par exemple, tout d'abord, ils vont éduquer ou enseigner l'intelligence artificielle à tous les élèves, à partir de la primaire, ce qui est vraiment impressionnant. Et donc, ils ont lancé, une fois qu'ils ont décidé ça, ils ont lancé en 2025, pour la première année scolaire 2025-2026, des formations poussées en secondaire, avec un objectif, c'est de faire déjà un premier debriefing en juin, et puis d'étendre pour la rentrée à tout le système scolaire éducatif. Et c'est pas rien, c'est pas juste, tenez, voilà ChatGPT ou une autre IA, on va vous apprendre à faire quelques prompts. Non, non, non. Ils montrent, ils éduquent vraiment toute une génération à la manière dont on interagit avec l'intelligence artificielle, les limites de l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle la littératie, à savoir bah, comment faire quand, pour comprendre l'intelligence artificielle avec son cadre de valeur, avec ses biais éthiques, etc., etc. Et avec une ambition énorme, c'est-à-dire que lorsque les étudiants quittent le système éducatif après leurs années d'études supérieures, ils sont capables non seulement d'utiliser des chatbots comme vous et moi, ou tout le monde utilise, hein, ChatGPT, c'est un chatbot, mais d'aller vraiment au-delà des chatbots et réussir à créer des petits modèles d'intelligence artificielle. C'est pas dingue, ça. Mm-hmm. C'est vraiment incroyable.
Mais Didric, je me mets à la place des ados qui nous écoutent maintenant. Ils ont dit, il est très sympa, le Didric Legrain. Il est bel et bien de sa génération. Il croit qu'on nous éduque, nous, alors que c'est nous qui éduquons souvent les profs ou nos parents.
Ah, bah, c'est pas complètement faux, mais c'est pas complètement correct non plus. Moi-même, j'enseigne dans le supérieur, et je vois bien quand même que les étudiants qui utilisent l'IA de manière très avancée, c'est pas fréquent. Je veux dire, oui, ils utilisent ChatGPT comme tout le monde pour écrire leurs devoirs ou faire des recherches sur Internet, mais ils l'utilisent pas très bien, de manière pas très consciente, et avec finalement peu de gains, sinon un gain de temps pour écrire les devoirs à leur place. Mais l'ambition de la Fédération Wallonie-Bruxelles, elle est, à côté de ça, elle est un petit peu dans les choux, je dirais. Parce que la communauté Wallonie-Bruxelles, la Fédération Wallonie-Bruxelles, ils ont, je vous ai parlé de cette charte avec 9 principes, et ça correspond, mais absolument pas, à la réalité du terrain.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui ne correspond pas à la réalité ?
Il y a l'université de Namur qui a fait une étude, justement, fin 2025, auprès de 400 étudiants, quelque chose comme ça, donc c'est un petit peu sérieux. Ils ont dit qu'il y avait 99% des étudiants qui utilisaient ChatGPT. En soi, rien d'étonnant. Mais 63% le font sans le déclarer. Et là, ça devient le problème parce que c'est un petit peu le point aveugle de tous les profs qui connaissent mal l'intelligence artificielle et qui soit l'interdisent purement et simplement en se reposant peut-être sur des outils de détection d'IA qui ne fonctionnent plus depuis belle lurette. Et ils n'ont pas un cadre auquel de se raccrocher. Je vois la demande, la pétition de principe de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est comme s'ils avaient mis 20 experts et puis qu'ils ont fait, et que tous les 20 experts ont donné des idées et puis ils ont tout empilé ça et il n'y a aucune priorité, rien de ça. Et en fait, elle n'est même pas correcte, cette charte. Si vous voulez, la charte, la directive de la Fédération Wallonie-Bruxelles dit attention, droit d'auteur. Alors là, ça me fait bondir. Droit d'auteur, ils disent ne mettez surtout pas des documents dans l'intelligence artificielle pour faire des résumés, etc., si ces documents sont protégés par le droit d'auteur. Mais c'est une aberration. Je veux dire, les IA. Elles sont entraînées avec des documents très probablement protégés par le droit d'auteur avant qu'elles soient accessibles pour le public. Quand un enseignant ou un élève met un ouvrage ou un article qu'il veut voir résumé, l'intelligence artificielle tout à coup ne s'empare pas pour dire « Ok, j'ai trouvé quelque chose de nouveau ». C'est même aberrant. Imaginons. Je prends cette anecdote. Imaginons que j'écrive dans ChatGPT « Super, j'ai découvert un nouveau roman inédit de Marcel Proust, aide-moi, et je te le balance là, et aide-moi un petit peu à l'analyser. ChatGPT ne va pas s'emparer de ce livre en disant « Ouais, génial, je vais pouvoir augmenter ma connaissance sur Marcel Proust quand on me posera encore des questions sur lui. » Ce serait aberrant, ça ne marcherait pas. Si chaque fois qu'un humain utilise ChatGPT et raconte des carabistouilles, tout à coup, ChatGPT s'en souvenait par ailleurs, ça ne marcherait pas. Donc, cette charte, elle est tellement contraignante qu'elle est inapplicable et que finalement les directions d'établissement, et moi-même je peux en attester dans le mien, ne savent pas très bien comment faire par rapport à ça et préfèrent dire bah, « Allez, on va suivre les recommandations de la Fédération Wallonie-Bruxelles, on envoie ça à tout le monde ». Et puis que les profs fassent leur popote, ouais. Et alors les profs ils n'osent plus rien faire.
Mais justement, Didrik Legrain, vous avez parlé tout à l'heure hein, de ces professeurs qui sont face à des travaux qui ont été réalisés par l'intelligence artificielle, enfin par leurs élèves, avec l'intelligence artificielle. Et très souvent, ils nous disent, on ne sait pas très bien ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on doit sanctionner, pas sanctionner? Vous, qui êtes professeur d'intelligence artificielle, vous qui travaillez dans le secteur depuis longtemps, et c'est vrai que sur nos antennes, vous le dites régulièrement, et dites, arrêtons d'interdire quelque part, accompagnons mieux. Mais que pourrait mettre en place les professeurs ici en Belgique pour accompagner justement les élèves du secondaire, par exemple, ou du supérieur?
Du secondaire ou du supérieur, la meilleure façon de faire, et pour ça, il y a la faculté de droit de la Sorbonne à Paris qui a fait ça, je trouve ça remarquable, c'est de mettre plusieurs gradations. Soit il y a des travaux pour lesquels on accepte totalement que l'intelligence artificielle soit utilisée, à condition de le documenter. Et c'est quelque chose que je trouve très pratique et que moi j'applique avec mes élèves, c'est que je leur demande non seulement un résultat, mais aussi je veux une copie de la discussion qui a amené ce résultat. Comme ça, je peux voir, ou un petit peu comme quand, vous savez, quand on faisait les examens de calcul dans notre jeune temps, Cédric, le prof disait ne mettez pas que le résultat, mettez-moi tout le calcul, comme ça je verrai si vous vous êtes trompé quelque part, et si vous êtes trompé à la fin, c'est moins grave que si vous êtes trompé au début. Eh bien, ça, c'est une bonne approche. De dire, voilà, il y a peut-être des travaux qui peuvent être utilisés avec l'intelligence artificielle. Et même, il devrait y avoir des travaux qui ne peuvent être faits qu'avec l'intelligence artificielle, mais de nouveau, de manière très documentée. Et puis, il y a un truc plus intermédiaire où on peut dire, pour certains travaux dans ma matière, oui, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle, pour d'autres, non. Et là, on peut commencer à parler de sanctions, etc. Et comment est-ce qu'on peut vérifier si un étudiant ne l'a pas utilisé? Simplement en l'interrogeant de manière orale. C'est vraiment un grand classique qui va revenir. Vous interrogez des étudiants de manière orale, vous voyez tout de suite s'ils ont compris la matière qu'ils sont en train de régurgiter, ou bien si c'est simplement du ChatGPT qui est passé entre leurs doigts. Ça, je trouve ça efficace. Mmh. Et alors, et en plus, ce qui m'énerve, c'est que c'est facile à mettre en place. Moi, je l'ai vu au Vietnam, on a fait des ateliers quelques jours pour créer des chartes applicables à chaque niveau d'établissement, des chartes IA. Et ma foi, ça nous a pris quelques heures pour faire ça avec un référentiel solide, etc. Et je trouve ça très efficace, très agile, vraiment quelque chose que je voulais ramener avec moi du Vietnam. Et donc j'ai moi-même fait un outil, après l'avoir aidé à le coder au Vietnam, mais je l'ai adapté au référentiel de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il est accessible. S'il y a des enseignants qui m'écoutent, n'hésitez pas à me contacter. Il est tout à fait accessible et tout à fait gratuit. Et je le mets vraiment à disposition de tous les enseignants et pas seulement les directions, parce que je pense que la discussion, elle doit commencer déjà chez les enseignants. Pas seulement, si vous attendez, chers enseignants qui nous écoutez, ou chers parents, que la direction lance un comité Théodule où il y aura du juridique, où il y aura des experts, où il y aura ceci, où il y aura cela, vous n'aurez jamais de charte, vous n'aurez jamais de guidelines, vous n'aurez jamais d'usage éclairé de l'intelligence artificielle avant des années, avant 2-3 ans, et à ce moment-là, l'intelligence artificielle, elle sera déjà différente.
Didrick Legrain, vous qui êtes formateur en intelligence artificielle, spécialiste de la question et également utilisateur, vous venez de dire quelque chose de très important pour les professeurs. Dans la charte de la Sorbonne, il y a, voilà, chers étudiants, vous pouvez... dans tel cas, utiliser l'intelligence artificielle et dans tel cas, ne pas l'utiliser. Où situer la limite et pourquoi, à un moment, créer une limite entre ça, vous pouvez faire et ça, vous ne pouvez pas faire?
Moi, j'aime bien discuter avec vous, Cédric, parce que c'est ça, vous allez directement dans le cœur du bazar. La charte qui est applicable à la faculté de droit de la Sorbonne, très clairement, il peut faire des recherches juridique, de jurisprudence, etc., avec l'intelligence artificielle. Pour certains cas, c'est même obligatoire, pour voir s'ils l'utilisent à bon escient. Par contre, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des professeurs qui disent « Ah, là, pas touche, on va garder ceci pour moi, ce sont des livrables sur, par exemple, la manière d'amener des arguments, la rhétorique, ce genre de choses. » Et là, de nouveau, ça demande à l'enseignant qui, pour faire ce partage un petit peu consciencieux, je dirais, ça demande à l'enseignant de savoir ce que c'est que l'intelligence artificielle. Et de nouveau, là, je lance un petit appel à mes confrères et consoeurs enseignants, enseignantes, c'est que faites quelque chose de compliqué avec l'intelligence artificielle. Si vous vous contentez de poser des questions à l'intelligence artificielle pour voir si l'intelligence artificielle est aussi maligne que vous, vous n'aurez pas de mal à démontrer que l'intelligence artificielle raconte des bêtises. Si c'est juste ça, vous avez tout à fait raison et en même temps, vous n'avancerez pas d'un iota. Par contre, utilisez l'intelligence artificielle pour faire une tâche que vous jugez vous-même difficile à faire en tant qu'expert, en tant qu'enseignant, etc. Et là, vous vous rendrez compte qu'il y a je commence à comprendre vraiment comment on peut collaborer avec l'intelligence artificielle et voilà comment je pourrais interdire ou l'introduire dans mes cours. Ouais. Tant que cette démarche d'appropriation par l'enseignant n'est pas faite, ça ne marche pas. Ouais. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de formations. Les formations, c'est presque de la blague. Hein. C'est deux webinaires de 30 minutes par an. Enfin, c'est assez ridicule.
Didrick Legrain, on va prendre un autre exemple très concret que l'on entend tous les jours hein, quand on est parent d'adolescent. Oui. Résumé du vous devez lire un livre pour dans 3 semaines.
Ah,
et
ouais.
Ils sont nombreux, nombreuses à se dire, oui, c'est ça, hop, on va aller voir l'intelligence artificielle, on va prendre le livre d'Hubert Antoine hein, qu'on a entendu ce matin, par exemple, sur les antennes de Cindy Isarelli, bah, résumez-le-moi, et ils vont obtenir un très bon résultat, et qu'ils vont proposer au professeur. Comment doit réagir à ce moment-là le professeur ou la professeure?
Mais déjà, en changeant le dispositif pédagogique, et là que j'utilise des concepts tout à fait creux, mais c'est vraiment ça. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que si vous demandez à un élève de lire un livre et que vous voulez, en tant qu'enseignant, vous assurer qu'il l'a réellement lu et qu'il l'a compris, interrogez-le oralement ou demandez-lui une présentation orale. Moi, je peux détecter quasi immédiatement, mais tous les enseignants peuvent le faire, quand un élève, de manière orale, restitue quelque chose de manière erronée. Et pour moi, c'est pas grave. Je leur demande juste, montrez-moi les recherches que vous avez faites pour arriver à ce résultat erroné ou à cette chose que vous ne maîtrisez, que vous ne comprenez manifestement pas. Cela dit, pour tous ceux qui nous écoutent, les plus jeunes, j'espère qu'ils sont nombreux aussi, lisez, les amis. Franchement, lire un livre, l'expérience n'a rien à voir avec résume-moi ce livre, s'il te plaît, parce que je dois écrire 3 pages de disserte pour M. Legrain. Lisez, c'est un plaisir. Et puis en plus, c'est une appropriation lente, plus mature, etc. Ça, cette expérience de la lecture d'un livre ne remplacera jamais la compréhension, le résumé d'un livre. Mais on peut dire ça pour toute la matière, hein, je veux dire, pas spécialement la littérature.
Didrik Ollegrain, en une minute, qu'est-ce qui a été mis en place au Vietnam pour les examens?
Là, de nouveau, j'admire la souplesse et la flexibilité du truc au Vietnam, c'est qu'ils laissent les établissements décider ce qu'ils veulent. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont réussi massivement en peu de temps à déployer ça de manière globale à l'échelle de tout un pays? Parce que c'est un régime communiste, donc la planification, bon, ben, ça les connaît. Mais par contre, là, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont laissé vraiment de la flexibilité. Donc, il n'y a pas une règle absolue. Par contre, pour les examens, la plupart des examens se font sans ordinateur, ce qui est compliqué pour des jeunes étudiants, évidemment, et ou alors sans Wi-Fi, pour s'assurer qu'ils ont bien fait ça. Mais la plupart du temps, on demande aux professeurs de revoir leur méthode d'évaluation. Alors là, c'est peut-être un petit peu rapide pour le mois de juin, donc on leur a dit, ça va, ok, assurez-vous qu'au moins les examens soient faits, etc. Mais pour l'année prochaine, on fera un débriefing en juin, et pour l'année prochaine, vous devez vous adapter.
Vous savez ce qu'on va faire, Didrik Ollegrain? On va revenir sur cette thématique dans un dossier avec d'autres intervenants, parce qu'à mon avis, et ça commence à réagir évidemment au 0471